Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de QG. Ce 22 janvier 2026, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Rick MacArthur, le président du Harper's Magazine, l'un des plus prestigieux titres de la presse américaine. Rick est un habitué de QG, où il vient régulièrement nous faire profiter de sa connaissance profonde de la vie politique américaine et de son regard critique sur la politique étrangère menée par les États-Unis depuis la fin de la guerre froide. Bonjour, Rick.
Bonjour.
Il est quelle heure à New York?
Il est 9h06 et c'est peut-être heure zéro pour la Constitution américaine. On est presque, ce qu'on dit en américain, c'est end times, peut-être. C'est biblique.
Est-ce qu'un journaliste américain arrive à dormir en ce moment?
Ben, c'est difficile parce que Trump mène sa propre. Son propre cabinet de communication et il annonce des projets complètement fous au petit matin. Alors il faut constamment être à l'alerte pour des annonces, bien que les annonces soient ridicules, sottes, bizarres, etc. Il faut quand même répondre à la dernière crise. Et je viens d'apprendre de vous qu'il y a eu un nouveau projet annoncé dont je ne suis pas du tout au courant.
Le Conseil de la paix, on va y revenir
Oui.
au cours de cet entretien. Donc, un an après la réélection de Donald Trump, hein, quasiment jour pour jour, je t'ai proposé de faire le bilan de ce début de mandat en train de renverser définitivement l'ordre international hérité de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre des tarifs en 2025, après le coup d'État surprise au Venezuela pour débuter l'année 2026, le projet d'annexion du Groenland. Le président américain semble totalement en roue libre. Il humilie les dirigeants européens, il s'assoit sur le droit international, il torpille l'ONU et l'OTAN et semble par-dessus tout déterminé à reprendre une politique d'annexion impériale à travers le monde. Le menu du jour est chargé, c'est le moins qu'on puisse dire. On y va, on se retrousse les
Oui.
manches.
Ben, le bilan, c'est pas évident parce que et je m'aperçois de ça dans beaucoup de chez beaucoup d'étrangers avec lesquels je parle, que je discute la politique américaine. Ils imaginent un grand projet dans l'esprit de Donald Trump où il n'y en a pas un projet. C'est une collection d'impulsions, Trump. C'est ce que mon ami décédé, Robert Lifton, le grand psychiatre social, enquêteur psychiatre, qu'il a prononcé un solipsiste. C'est le solipsisme de Trump qu'il faut regarder. Et un solipsiste n'a aucun point de référence à part lui-même. C'est lui le repère, c'est lui l'objet le plus important, alors qu'un narcissiste comme Trump, par exemple, comme Macron, il cherche, il a un amour propre excessif, bien sûr, il s'adore, mais il cherche quand même l'adoration de l'autre de temps en temps. Il a des points de référence, il fait des comparaisons avec l'autre, alors que Trump n'a pas la capacité de penser aux autres gens, aux conséquences de ses actions. Et c'est vraiment pitoyable, et c'est bien sûr, c'est dangereux. Alors, mais les journalistes américains, les critiques américaines se trompent quand on parle d'un narcissiste. Alors, c'est vrai qu'il est entouré de gens avec des ambitions. Il y a ce fameux projet 2050 lancé par la Fondation Héritage qui cherche à vraiment créer une nouvelle politique à droite pour le gouvernement américain de vraiment réduire l'État providence, de l'émietter, peut-être de détruire. Alors que Trump n'est pas contre la sécurité sociale, par exemple. Il n'essaie pas d'abolir la sécurité sociale, mais de temps en temps, il s'aligne avec les idées du projet 2050 et il ressemble un peu à un droitiste classique, mais ce n'est pas un droitiste classique, c'est un fou. Un fou, et c'est le fils d'un très méchant propriétaire immobilier de New York. Et dans la famille Trump, on avait vraiment, on serrait les pièces de monnaie. C'était vraiment l'éthique de la famille Trump. Et on vidait les machines de lessive automatique tous les jours. Je ne sais pas s'il faisait ça personnellement. Mais de dire que Trump a des projets qui vont au-delà de ses impulsions immédiates, c'est un peu une absurdité. Ça ne veut pas dire, et encore, je reviens sur sa dernière aventure au Venezuela.
Alors
Ça,
attends, on va y venir.
on va y aller. Mais c'est sûr qu'il est autoritaire. Mais c'est autoritaire, pas comme un fasciste, parce que finalement, j'ai déjeuné hier par coïncidence avec le grand historien du fascisme de Vichy, Robert Paxton. Il m'a fait
Robert
rappeler,
Paxton, qui est toujours en vie, qui a quel âge?
toujours en vie et qui a toute sa tête, vraiment, il m'a dit,
Il a quel âge? Il a
il
quel
a
âge?
93 ans, et il m'a dit, mais Trump, c'est Néron. C'est pas Hitler, c'est Néron. Et que finalement, il faut se rappeler que les fascistes, les nazis étaient des dirigistes. Ils voulaient diriger l'économie allemande et mondiale. Ils avaient des idées, ils voulaient dominer les hommes d'affaires et les sociétés, les grandes sociétés allemandes. Alors que Trump les laisse faire n'importe quoi. Si on veut polluer l'eau, on veut polluer l'océan, si on veut piller les biens de telle et telle société ou d'individu, on vous invite à le faire si vous êtes assez puissant. Il est un libéral, total, convaincu.
Alors, tu parles de roi fou, au
Oui.
sujet de Trump, hein,
Oui.
dans un de tes derniers éditos, c'est ce qui nous a donné l'idée de ce titre. Néanmoins, il y a quand même une chose qui frappe, c'est que ce second mandat de Trump ne ressemble absolument pas au premier.
Oui.
C'est-à-dire que on a l'impression que il y a eu une levée totale des inhibitions, qu'il est désormais dans la provocation continue, dans la transgression, dans la capture de l'attention mondiale, dans la prédation tous azimuts, alors que lors du premier mandat, finalement, il avait été assez mesuré. Et d'ailleurs, c'était un argument lors de la dernière présidentielle pour dire, voyez, il a pas mis le feu à la planète, donc c'est pas terrible de le réélire, mais bon, enfin, il va pas se passer de catastrophe. Et en réalité, là, depuis un an et depuis quelques mois avec une accélération très spectaculaire, eh ben si, on a vraiment le sentiment qu'il peut mettre le feu à toute la planète. Qu'est-ce qui lui donne, selon toi, à ce point, les coups des franges en ce moment?
Ben, ça, c'est, il a été élu de façon légitime.
Mais c'est la deuxième fois.
La deuxième fois, oui, mais là, il avait une majorité électorale, c'est différent. La première fois, il a été élu par hasard, un peu avec cette bizarre amendement, réglementation de la Constitution qui permet de gagner avec le collège électoral. Avec les voix du collège électoral, il n'avait pas une majorité populaire. C'est Hillary Clinton qui l'a remporté avec 3 millions de voix. Alors cette fois-ci, il a vraiment gagné. Et il a gagné la majorité dans les deux chambres du Congrès.
Donc, c'est la
Alors,
légitimité populaire.
oui, mais lui, il ne pense pas à la Constitution encore en tant que solipsiste. Il se dit, mais je le méritais, j'étais vraiment gagnant en 2016. J'avais vraiment la majorité. Et c'est juste cette fois-ci, le deep state, l'État profond, a cédé à ma bonté, à ma, je sais pas quoi, à mon génie. Et il se croit maintenant le roi. Et il se croit vraiment au-delà de tout pouvoir, de tout frein. Alors, vous avez vu, il y a à peu près une semaine, il y a une semaine, les courtisans du New York Times ont interviewé le bureau ovale pour écouter ces déclarations absolument folles qu'il n'y avait plus de frein. Il pouvait faire n'importe quoi quand il le voulait. Et la Constitution, c'était juste un jouet. Mais il parlait comme ça il y a 10 ans. Il est célèbre pour sa déclaration que s'il fusillait quelqu'un au milieu de la 5e avenue, il ne serait pas interpellé. Il a toujours eu cette tendance. Mais là, avec la majorité, la vraie victoire légitime, il se croit roi maintenant. Et la question serait, la meilleure question, c'est pas qu'est-ce qui motive Trump, c'est qu'est-ce qui motive l'opposition, la soi-disant opposition démocrate. Parce qu'en ce moment, ils sont très faibles, presque muets sur les grandes questions
Alors,
constitutionnelles sur le Venezuela. Mais je vous laisse.
on va venir à l'opposition, aux démocrates. Et puis, bien sûr, on a très envie de t'entendre sur l'élection du maire de New York, puisque c'est ta ville, et qu'elle a beaucoup intéressé, évidemment, la presse française. Mais puisque tu parlais des courtisans du New York Times, qui maintenant sont au pied de Trump dans le bureau ovale, on sait que la presse américaine traditionnelle, institutionnelle, était très hostile à Trump. On sait qu'il a vraiment été élu contre ce monde-là. Un monde qui, je le précise pour ceux qui nous écoutent, n'est pas, et à la fois le tien et pas tout à fait le tien, parce que le Harper's Magazine est un journal qui est le plus ancien mensuel américain, mais c'est un journal non aligné, notamment sur les questions internationales. C'est le seul média américain de ce prestige à avoir remis en question la guerre en Ukraine, hein, de façon très forte. Vous avez fait une couverture pour dire que faisons-nous en Ukraine, hein, sur fond noir, quelque chose qui vous engageait énormément. Donc, ce monde-là, qui était très hostile à Trump, comment est-ce que il répercute aujourd'hui ses exploits? Comment est-ce qu'il analyse ce qui est en train de se passer? Est-ce que cette hostilité, est-ce que les gens sont rentrés dans le rang? Qu'est-ce qui se passe en fait dans les médias américains en ce moment vis-à-vis de Trump?
Mais ça dépend, parce que là, et encore, il faut revenir sur l'état profond, le deep state. Selon Trump, les médias, les grands médias font partie du deep state. Alors, ils sont bien sûr corrompus, de son point de vue. Mais il y a des fois où le deep state est tout à fait aligné avec Trump. Et sur le Venezuela, c'est évident. Si vous regardez la réaction de la plupart des libéraux. Rappelez-vous, mes camarades français, que libéral en Amérique a un sens complètement différent. C'est un peu à gauche. Que la presse libérale était quasiment favorable à l'enlèvement de Maduro. Et Maduro joue le jeu, il joue le rôle parfaitement parce qu'il est. Il ressemble à Saddam Hussein. Il a vraiment, c'est pas un type particulièrement honnête, on peut le dire. Mais écoutez les paroles d'Anthony Blinken, par exemple, que je vais citer là, il a dit en tant qu'opération, il a été interviewé après l'enlèvement de Maduro, en tant qu'opération militaire, en tant qu'opération de renseignement, c'était brillant. Si cela mène à une authentique transition démocratique au Venezuela, si Maria Corina Machado ou son parti finit par gouverner, ce serait un formidable résultat que j'applaudirais absolument, ainsi qu'applaudir le président. L'ancien secrétaire d'État de Joe Biden, et c'était à peu près pareil au New York Times et chez le leadership, les têtes de file du Parti démocrate. Tout le monde disait, mais on aurait dû nous informer, peut-être 10 minutes avant ou 20 minutes avant. C'était mal conçu, le kidnapping, l'enlèvement. Mais très peu de gens ont dit carrément, franchement, mais c'est évident, c'est anticonstitutionnel, c'est non constitutionnel, c'est une violation crue du droit international, etc. Tout le monde disait la même chose. Blinken à Schumer, Charles Schumer, le chef de la majorité démocrate, minorité démocrate au Sénat. Oui, c'est un méchant. Maduro, c'est un grand méchant. Et Trump aurait dû planifier ça d'une façon un peu plus claire. Mais il n'était pas vraiment contre. Alors, le deep state, encore, il y a des
Alors,
fois où on s'aligne avec Trump. Alors, c'est compliqué pour le deep state.
juste petite précision, tu dis libéral dans les coordonnées politiques françaises, c'est de gauche, mais c'est de gauche mollo, c'est de gauche social-démocrate. Évidemment, le vrai camp de gauche américain s'appelle radical, n'est-ce
Oui,
pas?
non, c'est même pas social-démocrate.
Oui,
Soyez
c'est
prudent.
macroniste, quoi.
Oui, c'est macroniste. Ça, c'est
Macroniste.
libéral
Ouais.
de
Ouais.
gauche, centre-gauche américain.
Oui. Alors, effectivement, l'année a commencé par le kidnapping de Nicolas Maduro, hein, ainsi que de son épouse, qui sont actuellement incarcérés dans une prison de Brooklyn, qui sont tous les deux inculpés devant un tribunal fédéral de Manhattan, à 2 pas de chez toi. Ce sont tes voisins à l'heure où on se parle. Quel est ton regard à toi sur cette opération spectaculaire qui a sidéré le monde? Comment est-ce que tu as vécu ça le 3 janvier?
Mais moi, j'ai eu mal à l'estomac parce que ça m'a fait rappeler les pires frasques du Deep State dans les années 60 et 70. On faisait ça. Et ça revient aussi à le premier projet interventionniste de John F. Kennedy en 61, la baie des cochons. Et on va en parler plus tard, j'espère, dans le contexte de Marco Rubio, secrétaire d'État actuel. Mais chez nous, c'est habituel. George Bush père l'a fait au Panama. C'était des circonstances presque pareilles. Il a envahi le Panama en 89, sans demander la permission de quiconque. Il a simplement interpellé le président du Panama et on l'a ramené aux États-Unis. Et on a fait une interpellation, une poursuite pour narcotrafic. Alors, c'est pareil, ce qu'on a fait avec, exactement pareil. Alors, mais depuis 89, dans le monde, dans l'Occident, c'est devenu beaucoup plus à la mode de parler de réglementation internationale, du droit international, la souveraineté, etc. Tout ça ignoré par Clinton. Le bombardement pendant la crise de Kosovo, le bombardement de Belgrade, etc., tout en violation du droit international et sans demander la permission du Congrès, etc. On continue à
Alors,
intervenir partout illégalement. Alors
La
quand Trump
différence,
le fait, oui.
Rick, c'est que
Oui.
Trump avait promis un recentrement sur les États-Unis. Est-ce qu'il est, alors je voulais te poser la
Oui.
question évidemment aujourd'hui, est-ce qu'il est perçu comme un traître par rapport à ses promesses de non-intervention? Comment est-ce que les Américains vivent ces nouvelles aventures guerrières, ces velléités d'expansion qui n'étaient pas au programme?
Voilà, vous me devancez là, parce que j'allais arriver à ce point-là. Il a complètement trahi sa base, qui était isolationniste, nombriliste, on pourrait dire. Si je peux citer Trump en 2016, il a dit, je cite Trump, la stratégie actuelle de renverser des régimes sans aucun plan pour le lendemain provoque seulement des vacances de pouvoir qui sont remplies simplement par des terroristes. Alors, vous imaginez là, il a fait exactement le contraire au Venezuela. Il menace de faire exactement la même chose au Groenland. Donc, il y a le type, un des émeutiers du 6 janvier, qui vient d'annoncer, le type avec les cornes, avec le casque à cornes, un chaman.
Il souhaite lancer un parti, c'est ça?
Il va lancer, non, il sera candidat pour devenir gouverneur de l'Arizona. Il se présente maintenant sur une plateforme anti-Trump. Alors, et la plus grande fracture, c'est sur Israël et Gaza. Et il y a Charlie Kirk, le martyr de la droite, grand chrétien, etc., que tout le monde adorait dans le camp Trump. Vers la fin de sa vie, il a changé de camp. Il est devenu très critique d'Israël et de la tuerie à Gaza. Et voilà que le MAGA est complètement fracturé par Israël et sa politique anti-palestinienne. Et Trump s'en fout. Il attaque les gens qui étaient auparavant fidèles. Il y a cette folle qui est devenue un peu plus intéressante récemment, Marjorie Taylor Greene, représentante de la Géorgie, l'État de Géorgie, qui vient de démissionner de la Chambre des représentants. Et s'est annoncée, elle a annoncé l'autre jour, vraiment, j'étais naïve. J'étais naïve.
Par
J'étais
rapport
naïve par rapport avec Trump. Je pensais que c'était un vrai de la vraie, un type honnête, un réformateur. Mais on voyait bien à l'époque, et encore si on revient sur le dossier ukrainien, j'espère, on en parlera, mais toutes les impulsions ou les tendances qu'on croyait anti-orthodoxe, anti-État profond, un peu réformateur, ont disparu parce que chez le solipsiste Trump, ça n'existe plus. Il n'y a que ces dernières impulsions qui comptent.
Alors effectivement, tu le disais à l'instant, hein, il y a toute une partie du camp trumpiste qui remet en question la politique guerrière impériale assumée hein, lors de ces derniers mois, et dont des personnages qui ont joué un rôle très important au sein de MAGA, comme le journaliste Tucker Carlson, qui a affirmé que Trump était en train d'entraîner les États-Unis et le monde entier à travers vous dans une troisième guerre mondiale.
Oui, et Tucker Carlson, il est très influent, il a une audience énorme, et pire que ça pour Trump, c'est Joe Rogan. Je ne sais pas si vous connaissez Joe Rogan en France, mais il a l'audience la plus grande pour un podcast américain, extrêmement
Que
influent.
les gens situent, c'est lui qui avait reçu Mark Zuckerberg lorsqu'il a fait sa mue trumpiste et qui s'est relooké entièrement
Oui.
quelques semaines après l'élection de Trump.
Voilà. Et récemment, après on peut dire l'assassinat de la pauvre la pauvre dame à Minneapolis, Renée Good. Rogan a parlé carrément, franchement, de tactique Gestapo. Est-ce qu'on est devenu le Gestapo? Alors lui, il tourne contre Trump, mais Trump ne réagit pas. Il n'a rien dit au sujet de Rogan. J'ai un peu l'impression que Trump ignore le sens de Gestapo. Il est tellement ignorant de l'histoire. Il n'a rien lu, rien, absolument rien, sauf ses textes. Alors, c'est hallucinant. Mais il y a une grande partie de sa base fidèle qui est qui se révolte.
Alors par contre, il y en a qui reviennent, hein, parce que j'ai été frappée par les propos hier de Steve Bannon, qui avait été en conflit violent avec Trump, hein, qui s'est fortement
Oui.
fâché avec lui, et qui hier, après le discours de Trump à Davos, a dit que si on était un globaliste, on entendrait là le discours d'un fou et d'un gangster, mais que lui avait entendu le plus grand discours prononcé depuis Périclès à Athènes. Voilà. Donc apparemment, il y a un retour de flamme amoureuse du côté de Bannon.
Oui, ben, lui aussi, c'est un fou, mais c'est aussi, il est opportuniste. Il cherche toujours un créneau pour redémarrer dans sa carrière un peu. Il a subi un échec il y a quelques années et il a été inculpé pour des crimes de financiers. Et là, il essaie de rattraper un peu avec Trump. Et il voit bien que Trump perd ses amis, ses partisans. Il profite de la situation. Mais vraiment, la comparaison avec Néron, c'est meilleur que la comparaison avec Périclès. Donc,
Alors, quand même, il faut qu'on parle de la grosse affaire de ces derniers jours. C'est bien sûr le Groenland. Trump semblait décidé à faire main basse sur le Groenland. Hein, c'est ce qu'il avait dit. Un territoire donc qui appartient, comme on sait, au Danemark, un membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Mais hier, à Davos, il a semblé offrir une porte de sortie honorable aux dirigeants de l'Union européenne, puisque il a dit que ça se ferait pas par la force, ça se ferait par la négociation. Il a entamé des discussions avec le Danemark pour placer d'autres bases militaires américaines aux États-Unis. Et bon, il a l'air de gagner un petit peu de temps. À ton avis, c'est purement tactique? Est-ce qu'il ira jusqu'au bout?
Encore, le tactique, c'est le tactique de court terme. Et vraiment, c'est la mentalité immobilière négociateur d'immobilier de New York. Un milieu que je connais un peu. Et dans le milieu immobilier, l'idée, ce n'est pas seulement de gagner un peu plus d'argent. Quelques sous là ou là, etc. C'est de humilier l'opposant et aussi de le tromper. Alors, il faut absolument jouer le jeu de négociateur un peu opaque. Mais le monde, heureusement, n'est pas simplement un terrain à vendre. Pas jusqu'à présent. Pour Trump, c'est juste un terrain. C'est un terrain pour le développement et pour le partage et pour l'achat. Et donc, lui, il se trompe sur le vrai monde, mais on voit dans ses idées farfelues, ses déclarations sur le coup, comme hier, un peu, pas un peu, beaucoup, les tactiques immobilières qu'il a appris au sein de la société Trump immobilière à New York. Et là, c'est gagner un peu là, un peu là, peut-être reculer un petit peu, faire pas en arrière, et après frapper et peut-être tuer. Alors, il n'a pas peur de tuer parce qu'il était entouré de tueurs. Il était conseillé par Roy Cohn, un grand avocat qui a conseillé Joseph McCarthy, l'archi-anticommuniste des années 50, mais aussi des mafiosos. C'était le conseiller, l'avocat pour des mafiosos à New York. Alors, je ne dis pas que Trump va ordonner l'assassinat d'un leader européen, mais simplement, il a cette mentalité. Alors, quand vous me demandez, ira-t-il jusqu'au bout?
Probablement oui,
Oui, probablement
probablement oui.
oui, probablement oui. Et il faut s'en méfier. On peut pas rigoler. Il faut vraiment s'en méfier.
Alors, je rappelle que ton journal Harper's a été l'un des seuls, hein, je le disais un petit peu en introduction, l'un des seuls de toute la presse américaine à s'interroger sur le sens de cette guerre en Ukraine. Bon, Trump semblait pendant la présidentielle prendre l'affaire à cœur, hein, et je dois dire que c'était l'un de ses seuls et rares mérites à mes yeux, et je pense peut-être aussi au tien. Mais une fois de plus, hier à Davos, il s'en est ouvertement lavé les mains. Il a dit formellement, il y a un océan entre nous et l'Ukraine. Et c'est votre problème. Voilà ce qu'il a dit aux dirigeants européens. Bon, aujourd'hui, ce matin, au réveil pour l'heure française, il est un petit peu revenu en arrière en disant que de toute façon, la guerre en Ukraine allait bientôt s'achever. Bon, mais ça ne mange pas de pain, hein, ce genre de propos. Ça fait des années qu'il le dit. Comment expliquer quand même ce revirement, parce que et lui et J.D. Vance, son vice-président, semblaient quand même tous les deux assez déterminés, hein, à mettre un terme à cette guerre absolument meurtrière. Est-ce que selon toi, l'explication, c'est que Trump a découvert tout simplement qu'il n'avait aucune corde de rappel sur Poutine?
Ben, je ne sais pas ce qui mijote chez Trump en ce moment, mais on peut dire que il y a un an, il y a un an et demi, 2 ans, la gauche, je dirais, rationnelle, comme dont je fais partie, voyait dans la guerre russo-ukrainienne des grands méchants. Dans l'Occident et chez l'OTAN, et que l'élargissement de l'OTAN a mené inévitablement à un conflit avec Poutine, et que ça serait passé de la même façon avec un autre président russe. C'est pas juste Poutine, c'est toute l'histoire russe. C'est une histoire défensive qui a été accentué par la Deuxième Guerre mondiale. Je me souviens au moment où les Allemands ont annoncé qu'ils allaient contribuer des blindés ou des tanks Léopard du côté ukrainien. On était à une semaine de l'anniversaire de la guerre de la bataille de Stalingrad. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait là? C'est incroyable ce qu'on fait, c'est la provocation constante. Alors, mais Trump ne comprend rien, mais il comprenait que c'était bête, c'était inutile et que probablement, vraisemblablement, les Russes allaient gagner finalement. Alors, il a profité de ça. Et il y a beaucoup, beaucoup de pas seulement de gauchistes, mais d'isolationnistes et de républicains. Ce que je dirais anti-impérialistes qui se sont dit, voilà, c'est notre héros. Il arrive sur le terrain, sur la scène, il va vraiment négocier
Alors
un deal.
pas tellement de gauchistes, hein, parce que les
Oui.
gauchistes, aussi bien aux États-Unis qu'en France, étaient plutôt pro-guerre, hein.
Oui, c'est ça, c'est ça. Alors chez nous, on voulait
Je pense
pas
que vous
seulement
avez les
la
mêmes.
guerre. On voulait pas simplement la guerre, on voulait carrément le renversement de Poutine. On parlait ouvertement de renverser Poutine. C'était pas assez de défendre les frontières ukrainienne, il fallait aller jusqu'à Moscou et le renverser. Alors, c'était, et pour certains gauchistes, c'était la guerre d'Espagne, la guerre civile d'Espagne.
On entend ça ici aussi.
On disait des conneries. Je ne peux pas y croire. Aujourd'hui, on a arrêté cette connerie. Mais on avait beaucoup d'espoir. Et j'ai interrogé beaucoup de gens au moment de l'investiture de Trump. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est sérieux? Parce que pour moi, Trump n'a aucune capacité d'attention.
Alors, avec le recul, Rick, il était sérieux et il est dépassé par la situation ou c'était vraiment des paroles inconséquentes?
Oui, c'est ces paroles inconséquentes et un coup de tête, un coup de tactique, disons. C'était vraiment sur le coup et il y a des gens bien, dont mes amis, Andrew Bacevich, par exemple, qui disaient, voilà, s'il s'entoure de diplomates, il fait un vrai effort avec Poutine et que on cède. L'adhérence de l'Ukraine à l'OTAN, etc., des choses comme ça sera résolu. Mais on ne savait pas à quel point ce type ne pense pas et de mettre, ne s'intéresse pas à l'histoire, mais il ne pense pas à à la situation actuelle et de mettre deux promoteurs d'immobilier à la tête d'une équipe de négociation, c'est de l'idiotie. C'est de la pure idiotie. Alors, comment est-ce que Trump est dépassé par la réalité? J'en sais rien. Parce qu'il est, il est dans, dans, sa dans sa tête solipsiste. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens. Il y a l'Institut Quincy, dont on parle un peu, j'espère, en Europe, qui est plutôt centre-gauche, centre-droite, républicain, etc., qui est vraiment pour un. Cherche à trouver à résoudre le conflit russo-ukrainien. Ils sont en désespoir, là.
Oui, je le rappelle au passage, hein, depuis le 11 janvier dernier, la durée de la guerre russe contre l'Ukraine a dépassé celle qui a opposé l'URSS à l'Allemagne nazie. Donc ce n'est qu'un symbole, bien sûr, mais
Oui.
ça dit quand même beaucoup de choses sur l'enlisement de cette affaire.
Oui, mais et je ne dis pas que ça ne pourrait être pas résolu, mais voilà, d'envahir le Venezuela, ça, bien sûr, ça renforce la position de Poutine, qui est très clintonienne, très américaine. C'est la guerre préemptive. On peut justifier la guerre préemptive parce que Poutine.
D'ailleurs, certains dirigeants européens comme Giorgia Meloni sont venus apporter de l'eau au moulin de Poutine en parlant au sujet du kidnapping de Maduro de guerre préventive de la part des États-Unis,
Oui.
voilà, en justifiant l'idée de guerre préventive.
Oui,
Donc,
moi
effectivement,
je dis.
pour Poutine, on peut dire que l'affaire du Venezuela est une occasion fantastique
C'est du
de
pain béni.
légitimer
C'est du
ses
pain béni.
actes.
Oui. Et moi je dis préemptif parce que Bush, avant d'envahir l'Irak, parlait d'une guerre préemptive pour éviter que Trump, que Saddam Hussein lance des missiles nucléaires contre la France, contre l'Amérique, etc. Mais aussi préventive, ça marche. Ça marche.
Alors,
Mais là, encore, il faut souligner que Trump, dans ce sens-là, s'est mis à côté du Deep State. Et Blinken, vous voyez bien, on est plutôt content.
ce qui n'est pas bon signe, c'est la boussole qui indique le sud.
Très, très mauvais signe. Et c'est pour ça que j'ai des doutes sur la fin de l'histoire. Vous allez, je veux dire, élection 2026.
Alors, justement, puisqu'on parle d'élections, The Economist affirmait hier que la cote de popularité de Donald Trump était en chute libre comme jamais depuis le début de son second mandat, bien en dessous de celle de Biden à la même époque et bien en dessous de la sienne lors de son premier mandat. On sait que de nouvelles élections arrivent fin 2026, les fameux midterms. Qu'est-ce qui se passe concrètement si Trump, comme c'est probable, perd les midterms? Et est-ce que son accélération actuelle, hein, sa véritable frénésie d'action spectaculaire n'est pas liée aussi au fait que d'ici quelques mois, de toute façon, il pourrait avoir les mains liées?
Oui, ben alors, la question, c'est vraiment à poser, c'est aux républicains de souche. Alors, rappelez-vous qu'en 2016, le Parti républicain officiel s'est rassemblé, ils étaient unifiés contre Trump. Et ils ont perdu, ils ont complètement perdu. Et alors, on voit un peu cette fissure, s'afficher de nouveau dans le récent débat sur l'invocation de la loi pour les pouvoirs de guerre. Les démocrates ont avancé très poliment un projet de loi pour lier les mains de Trump sur le Venezuela. Au début, il y a cinq sénateurs républicains qui ont voté pour. Trump les a engueulés publiquement, c'est l'horreur, c'est la trahison, etc. Ils ont reculé, ils ont lâché, et maintenant ils ont voté contre eux, avec une majorité de je ne sais pas combien de votes, contre cette résolution qui aurait un peu freiné les ambitions de Trump au Venezuela, au Groenland. Alors, mais ça vous donne un petit peu une idée qu'il y a des sénateurs, des républicains qui voudraient se sauver la peau. Parce que s'il y a une chute brutale en novembre, qu'il est vraiment perdant, et il y a une énorme majorité démocrate, il y aura des républicains qui croient à leur avenir politique, qui vont abandonner Trump. Mais pour l'instant, ils ont tous très peur de Trump, parce que dans les primaires, il a toujours beaucoup de poids sur l'électorat. Et c'est pas formidable d'être engueulé par Trump en public, en privé, etc. Mais la rivalité la plus importante qu'il faut vraiment cibler, et j'appelle à la diplomatie européenne de vraiment cibler la rivalité entre JD Vance et Marco Rubio, parce que Vance essaie vraiment de retenir la base MAGA traditionnelle, isolationniste. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il parle très peu en ce moment. Il
Oui,
se déclare
absolument.
pas, il n'a pas, il s'est pas déclaré sur la grande victoire brillante au Venezuela. Alors que Rubio, en a profité énormément. Rubio se voit comme rival de Vance pour succéder à la Maison Blanche. Il compte sur les Cubains exilés en Floride, d'où il vient. Sauf qu'il y a quelque chose que je comprends pas, c'est que sa famille est partie en 56, avant la Révolution. En tout cas, c'est un fidèle anticommuniste, et il se voit soulevé par la foule à Miami si le Cuba tombe. Si le régime cubain tombe. Et ça, c'est sa vraie ambition à
Ah,
travers
oui.
le Venezuela. On coupe le pétrole, on les il y a une catastrophe économique au Cuba, la révolution, on installe quelqu'un de gentil, pro-américain, et Rubio réussit où Kennedy a échoué. Dans la baie des cochons. Et là, c'est le rêve de beaucoup de Cubains et beaucoup de Latinos américains. Et Rubio, il parie sur cette idée. Vance parie sur un retour à la vraie idéologie MAGA. Si on peut parler d'idéologie MAGA. Alors, on va voir des contestations et des tactiques entre Rubio et Vance dans les prochains mois. Il faut regarder vraiment de près et voir ce que tous les deux font pour avancer leur propre candidature pour la présidence.
Alors, on va maintenant tourner nos regards hein, du côté du Parti démocrate pour savoir un petit peu ben, comment il fait face à cette tornade. Alors, évidemment, je le disais tout à l'heure, tu es New-Yorkais, donc tu as vécu intensément hein, l'élection de Zohran Mamdi comme nouveau maire de Gotham. Tu sais, dans un
Quand
édito.
même, oui.
Et tu disais, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à ma ville natale et au journalisme depuis très longtemps. Tu étais un petit peu taquin. Explique-nous pourquoi c'est la meilleure chose.
La presse Murdoch s'est soulevée contre Mamdani avec une méchanceté, une folie extraordinaire. Mais moi, en tant que journaliste, et j'ai travaillé pour les journaux, alors j'apprécie un peu les tactiques sensationnelles du New York Post. Alors je le lis par fidélité à mes camarades qui sont toujours piégés dans la presse quotidienne. Mais les choses qu'ils ont dit sur Mamdani, un jour, c'était un tueur de juifs qui voudrait refaire l'Holocauste. La semaine suivante, il était djihadiste parce qu'il se mettait avec des Arabes, des musulmans de New York. Il faisait campagne dans les mosques. Et à la fin, Trump, que j'appelle le correspondant spécial du New York Post à Washington, a annoncé que Mamdani était communiste et que finalement on allait élire un communiste à l'hôtel de ville de New York. Et c'était grave. Alors, il y avait un candidat démocrate appuyé par les réguliers, je veux dire le parti officiel. Andrew Cuomo, fils d'ancien gouverneur, mais Mamdani, il flottait sur une vague d'enthousiasme incroyable et d'une haine contre la classe immobilière à New York, parce que les loyers ici sont extraordinaires, c'est invivable maintenant, New York. Alors il disait seulement, je vais geler les loyers, etc. Et c'est un type vraiment très malin, très bien. Et alors le New York Post, qui est le porte-parole de Murdoch et de Trump à New York, était dans tous ses états. Mais Mamdani a quand même gagné avec une petite majorité. Alors c'est formidable. Mais en même temps, il a battu le parti régulier démocrate, qui a très peur. Et ce que j'ai commenté et que personne d'autre a commenté, c'est le fait que Trump a finalement appuyé la candidature de Cuomo. Il y a 2 jours avant l'élection, officiellement, il a dit il faut voter pour Cuomo. Il n'y a pas un seul démocrate officiel du parti régulier qui a commenté cette horreur. Soi-disant, Trump, c'est l'horreur. Mais quand Trump soutenait, appuyait la candidature du rival de Mamdani, c'était très bien. Très bien.
Alors, je pense que tu le sais, mais je le rappelle, en France aussi, hein, Mamdani a été présenté comme un islamiste. On a évoqué un axe Mamdani, Al-Qaïda, Ben
Oui,
Laden,
oui,
le
oui.
tout dans la ville du 11 septembre. Hein, toutes sortes d'officines chez nous, comme le printemps républicain, qui se sont déchaînées sur lui. Et qui en plus voit en lui le grand inspirateur, le nouvel inspirateur de Jean-Luc Mélenchon. Alors ça ne, ce sur quoi on n'a aucune information véritable, donc ça n'a pas arrangé ses affaires dans les médias mainstream chez nous. Néanmoins, on a évoqué une espèce de lune de miel improbable entre Mamdani et le président Trump, hein, suite à leur rencontre dans le bureau ovale. Il correspondrait, enfin en tout cas jusqu'à l'affaire vénézuélienne, il correspondait régulièrement. Est-ce que c'est le cas selon toi? Et est-ce qu'il fait du bon travail actuellement à New York?
Ce que j'avais dit dans ma chronique, c'est est-ce qu'on subirait un pogrom, un djihad ou un goulag à New York? Mais finalement, aucun, parce que Trump l'a embrassé presque dans le bureau ovale. Il a annoncé qu'il serait content de vivre dans une ville gérée par Mamdani. C'était hallucinant. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais voilà. Et
C'est le
jusqu'à
goût du jeu,
présent,
le goût du succès. Il a été entraîné par la vague successful de Mamdani.
peut-être, mais il voit que Mamdani est gagnant et Trump apprécie les gagnants. Alors, il déteste ceux qui perdent.
Les losers.
Alors, les losers. Alors, mais en même temps, Mamdani est très malin. Il s'est prononcé très clairement contre l'enlèvement de Maduro. Il a parlé des citoyens vénézuéliens de New York qu'il voulait vraiment protéger. Il a dit tout ce que Schumer et les caciques du Parti démocrate n'ont pas dit. Et il continue sur son programme social-démocrate, avec l'aide du gouverneur dont il a absolument besoin, la gouverneure Hochul, qui l'a appuyée parce qu'elle ne voulait pas subir une élection primaire avec un opposant du camp Mamdani. Alors, pour l'instant, Hochul coopère avec Mamdani. Alors, on pourra peut-être avoir des crèches à New York, comme à Paris. C'est possible, ce n'est pas impensable, alors qu'avant, c'était impensable, impensable. Et de l'éducation pour les plus jeunes, gratuite, pour tous les enfants. Et en même temps, ils voudraient geler les loyers. Ça, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a un conseil d'administration qui décide. Mais même s'il empêche une hausse de plus de 3%, par exemple, ou 2%, ça sera une victoire pour les loyers contrôlés dont on parle, les loyers stabilisés. Autre projet, c'est l'autobus libre. Ne plus payer pour les autobus, etc. C'est tout à fait possible maintenant. Mais ce que j'attends, c'est la contre-attaque du Parti démocrate contre Mamdani, parce que lui, c'est un virus. Il faut absolument que le virus soit écrasé, éliminé. Parce que si Mamdani réussit à New York dans son programme un peu, et c'est légèrement social-démocrate,
Légèrement socialiste, ouais.
légèrement. Raphaël Glucksmann n'en dirait pas, n'en serait pas critique. Il menace vraiment la stabilité du Parti démocrate, parce que le Parti démocrate, pour l'instant, se refoule et refuse de dire vraiment quoi que ce soit de violent contre Trump ou de vraiment clair contre Trump. Et on espère que Trump va s'écrouler par lui-même. On compte sur l'autodestruction de Trump. Alors
Alors,
que Mamdani
effectivement,
propose un programme, il essaie vraiment d'aider les gens.
dans un éditorial récent au sujet du Parti démocrate, tu dis que le combat politique le plus important à observer pour l'avenir du pays oppose en ce moment Mamdani et ses alliés, dans lesquels tu ranges Alexandra Ocasio-Cortez. aux trois démocrates les plus puissants du pays. Et on aimerait savoir un petit peu, évidemment, quel est le rapport de force actuel et comment le Parti démocrate est en train de se restructurer après la défaite du camp Biden. Est-ce que cette fois, un nouveau Sanders, enfin victorieux, pourrait émerger lors de prochaines élections?
Bah, le problème là, c'est qu'il n'y a plus de Sanders. Sanders, comme je vous ai dit, il y a à peu près 2 ans, il a cédé à Biden. Il a baissé les bras. Il a dit, bah, je suis battu. Alors lui, il n'a plus la capacité, trop âgé, pour mener campagne. Il y a
Quel pourrait être le nouveau Sanders?
alors il y a Mamdani, et c'est tout. Il y a plus personne. Qui a le poids d'un Sanders qui pourrait le remplacer. Alors, et quand vous parlez des rapports de force, ça favorise vraiment les caciques du parti parce que eux, ils ont toujours les leviers pour ramasser de l'argent de Wall Street, des banques, des grandes sociétés. Et eux aussi, les grandes sociétés vont abandonner Trump. Si on le voit perdant au midterm, et ils vont donner énormément d'argent à la nouvelle majorité au Congrès qui sera menée, dirigée par, gérée par Charles Schumer et Hakeem Jeffries, tous les deux de Brooklyn. Et c'est ça où je trouve ça très intéressant parce que la lutte interne du Parti démocrate national se déroule sur le terrain municipal de New York entre la faction Jeffries Schumer et la faction Cortez, Ocasio-Cortez Mamdani. Et on verra. Mais pour l'instant, vraiment, c'est les caciques ont toujours tous les leviers du pouvoir. Et c'est douteux qu'il y aura un vrai mouvement Sanders. Mais on ne sait jamais. Et c'est toujours possible que quelqu'un comme démissionne du Parti républicain et qui mènerait campagne pour le Parti démocrate, qui pourrait envahir le Parti démocrate, un peu comme Trump a envahi le Parti républicain. Ça, c'est une possibilité.
Est-ce que techniquement, Mamdani, compte tenu de son histoire, compte tenu du fait qu'il est progressiste, qu'il est musulman, qu'il est né en Ouganda, etc., est-ce que techniquement, il pourrait être un
Ah
candidat
oui.
américain?
Oui, encore, oui, mais il n'est pas né aux États-Unis, alors techniquement, il ne peut pas se présenter. Excusez-moi, mais il y avait une question à l'époque si John McCain aurait pu se présenter, pouvait se présenter parce qu'il était né au Mexique. Et ils ont finalement permis à McCain de briguer la présidence. Alors, mais il est trop jeune. Trop expérimenté, pas suffisamment expérimenté, Mamdani. Je doute vraiment qu'il pourrait se présenter en 2000, c'est quoi, 2028. Donc, et il y a pas de personnage dans le Parti démocrate, dans l'opposition, qui pourrait vraiment reprendre le mouvement Sanders. Et Sanders, malheureusement, a cédé au cacique du parti. Je vous ai montré clairement il y a 2 ans
Oui,
comment il a
vous
cédé.
l'avez dit plusieurs fois sur cette
Oui,
antenne.
oui, oui, oui.
Petite question sur l'état de la société américaine. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on parle, au
Oui.
moins depuis le Covid, qu'on parle de risque d'éclatement, d'une situation assez explosive. On se souvient des manifestations à l'occasion de la mort de George Floyd. Qui était parmi les manifestations les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Hein. Certaines estimations parlent de plus de 20 millions de participants à travers le pays. Où est-ce que cette affaire-là en est? C'est vrai qu'il y a eu, tu en parlais tout à l'heure, le meurtre d'une citoyenne américaine le 7 janvier dernier. mère de trois enfants, Renée Nicole Goode, qui a été abattue par l'ICE anti-immigration. Bon, il y a eu bien sûr une indignation nationale et même mondiale après la mort de cette femme qualifiée par Trump et par Vance, son vice-président, d'agitatrice. Est-ce que cette autre forme de brutalisation interne, cette fois, brutalisation du discours et des pratiques, est-ce que cette brutalisation met en danger plus que jamais la cohésion nationale américaine?
Oui, et c'est ça, justement, je pose cette question dans ma prochaine chronique pour le devoir. Est-ce que ça remonte, parce que c'est une coïncidence géographique que Floyd est assassiné ou tué par le flic municipal il y a 5 ans à 1200 mètres de l'endroit où René Good a été assassiné par l'agent fédéral de ICE. Et le Minnesota, il faut vous rappeler, il faut savoir que le Minnesota, c'est un peu un modèle du gouvernement propre. Ce n'est pas comme New York, ce n'est pas comme l'Illinois, ce n'est pas traditionnellement un berceau, ce n'est pas le berceau de corruption comme Chicago. C'est un endroit qui finalement est très progressiste et qui a lancé des carrières formidables dans la politique américaine. Eugene McCarthy, mon héros de ma jeunesse, qui a renversé Lyndon Johnson en 68, et Hubert Humphrey même, ancien maire de Minneapolis, devenu sénateur du Minnesota. En tout cas, je pose la question, est-ce que cette tuerie à 5 ans de séparation dans le même endroit, effectivement, ça indique une fissure qui remonte aux grandes fissures nationales, aux grandes tragédies nationales, le 11 septembre, le Vietnam, des trucs comme ça. Et finalement, je suis indécis parce que là, comme vous le savez, j'espère, il y a cette lutte traditionnelle entre le pouvoir du gouvernement fédéral et les gouvernements d'État, de chaque État. Et on parle des droits des États. Et dans les années 60, les sudistes racistes tenaient à cette idée des droits des États pour repousser l'intégration et garder les écoles ségrégées, garder les Noirs à l'ombre, etc., séparés dans la société. Alors aujourd'hui, les libéraux, les social-démocrates commencent à comprendre pourquoi le pouvoir de chaque État compte. Et que ça pourrait être utilisé contre un gouvernement fédéral qui va trop loin. Alors, je ne dis pas qu'il y aura d'ici 2 mois ou 3 mois une confrontation entre les forces de l'ordre de Minnesota, je veux dire une confrontation armée entre les forces de l'ordre de Minnesota et les forces de l'ordre fédéral. Mais c'est possible. Et il y a toute une tradition aux États-Unis de milices dans chaque État. Ça remonte à la Révolution. Et nous arrivons à la 250e anniversaire de la Révolution américaine, de la Déclaration d'indépendance. Et on ne sait jamais dans l'histoire. C'était qui? Camille Desmoulins qui a fait le grand discours. Dans la cour du palais royal, qui a soi-disant allumé le feu qui vous a mené à la Révolution française. Peut-être quelqu'un va prononcer un discours qui va allumer un feu antifédéral, anti-gouvernement, dans un État de gauche ou dans un État démocrate qui pourrait mener à une confrontation violente. Je ne parle pas de guerre civile, mais dans je me souviens des années 60 et des années 70 surtout, et il y avait des confrontations vraiment violentes. On était sur le point, peut-être pas d'une guerre civile, mais il y avait une violence. Et les émeutes qui ont suivi le meurtre de George Floyd, ça pourrait se reproduire aux États-Unis. S'il y a encore un noir fusillé par un flic blanc, ou s'il y a encore un assassinat d'un manifestant anti-ICE.
Alors, la famille de René Goode a pris le même avocat que celle de George Floyd, mais les manifestations semblent avoir moins pris, je pense qu'on peut le dire. C'est un petit peu en train de s'éteindre. C'est vrai que Trump allumant des feux absolument partout, c'est assez difficile de courir derrière. On va quand même essayer de
Mais
trouver quelques.
si je veux juste ajouter 2 secondes, j'ai un ami plombier qui devrait être pro-Trump, vraiment, mais il est vraiment anti-Trump. C'est lui qui me parle de s'exiler. Il m'a demandé, quel est votre plan de sortie? Comment allez-vous sortir des États-Unis, échapper des États-Unis, vous échapper? Moi, je plaisante et je dis, moi, je fais des exercices militaires avec la milice de New York. Je m'apprête pour la grande confrontation avec l'État, avec le gouvernement fédéral. Excusez-moi.
On va essayer de trouver quelques points positifs hein, pour conclure cet entretien. Il me semble quand même que nous sommes en train de vivre en temps réel la fin de l'idéologie globaliste, c'est-à-dire la fin de l'idée que nous aurions pu vivre éternellement par-delà les conflits, les nations, l'histoire. Un petit peu toute cette vision foukouyamesque qui a été très puissante en France, hein, puisque tu connais très bien aussi la scène intellectuelle française. Tu as même écrit au cours de l'été 2025 un article assassin sur Pierre Nora, le patron de la revue Le Débat. On pourra peut-être en dire un petit mot.
J'espère.
Alors, c'est un petit peu tout ça qu'on vit. L'histoire s'est remise en marche sur tous les fronts, de toutes les façons possibles. Et ça, d'une certaine façon, est-ce que ce n'est pas une satisfaction intellectuelle, une satisfaction amère peut-être, hein? Mais une satisfaction tout de même de voir les masques tomber, les mensonges s'effondrer, les fictions s'affaler comme nous sommes en train de le vivre finalement. Comment est-ce que tu vis ce moment?
Ben, au début, je vivais un sentiment d'humour, vraiment. Je me disais, j'ironisais sans arrêt sur la réussite de Trump, etc. Bien que je sois horrifié par sa tenue, sa façon de se prononcer, etc. Mais maintenant, ce qui m'empêche de vraiment de célébrer ce dont vous parlez, c'est la faiblesse de l'opposition. Qu'est-ce qui va remplacer le trumpisme? Et je reviens sur un de mes thèmes préférés, le libre-échange, par exemple. Je vous jure, je ne vais pas vous ennuyer avec mes histoires de l'ALENA. J'en ai parlé souvent, je crois. Mais l'ALENA nous a amené Trump. C'est grâce à Trump qu'il a gagné. C'est grâce à l'ALENA qu'il a gagné en 2016. C'est statistiquement prouvé. Mais c'était pas un vrai accord de libre-échange, mais c'était vendu comme un accord de libre-échange. Et le libre-échange était, comme en Europe, était sain. C'était la Bible. Il fallait absolument être ricardien Et là, Trump a complètement détruit cette idée. Il a cassé l'orthodoxie sur le libre-échange. Mais en même temps, le problème persiste. Rien n'a changé. Le Mexique est toujours la plateforme d'exportation de main-d'œuvre bon marché qui empêche les pauvres cols bleus du Grand Midwest, les ouvriers du Grand Midwest, de rattraper un peu leur vie perdue après que leur petite usine est partie au Mexique, en Chine, etc. Alors, si Trump, lui, n'a rien changé, parce qu'il n'a rien changé, il a un petit peu refait l'ALENA avec un nouvel accord qui est à peu près pareil, ça a aidé un peu les ouvriers d'auto au Mexique. Ça n'a rien fait pour les ouvriers américains. Qu'est-ce qui va remplacer Trump? Je pense pas que ça il sera remplacé par Charles Schumer et les Clinton, le camp Clinton. Ça pourrait être pire que Trump. Un type
Qui
encore
est
plus
pire que
proche de
Trump aux
Trump.
États-Unis aujourd'hui?
Quelqu'un comme Vance, par exemple, qui croit, plus intellectuel, et qui a un programme qui pourrait nous mener vraiment à droite, vraiment casser
Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus
l'accord
pour...
social.
Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus, j'ai dit Vance.
Ben, je ne sais pas, éliminer la sécurité sociale. Parce que souvent, on annonce une crise, on dit, voilà, la sécurité sociale sera banqueroute dans 2 minutes, ou dans 5 ans. Il y a toujours une étude qui sort annonçant que la sécurité sociale est sur le point d'être ruinée ou de vider. Alors, Vance pourrait déclarer un état d'urgence et dire, vraiment, on n'a pas de sous. Alors, on ne peut plus payer la sécurité sociale. Le déficit fédéral a augmenté trop, etc. Parce qu'il y a des gens chez nous qui sont toujours vraiment enragés, furieux contre le programme de Roosevelt, du New Deal, qui voudrait faire demi-tour et retourner au 19e siècle. Et
Alors, je...
même Trump ne propose pas ça.
Merci, John Rick MacArthur, de nous avoir à nouveau livré votre ressenti sur ce qui se passe au pays de Donald Trump. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Merci mille fois. Je rappelle bien sûr hein, à tous ceux qui voudraient se renseigner sur Harper's que Harper's, dont je montre le numéro, je ne sais pas si on le voit.
Merci. Non, je le vois. Oui,
Voilà.
merci.
Harper's, c'est un mensuel. Harper's, vous pouvez le trouver facilement, le commander en ligne. Vous pouvez vous abonner en ligne si je dis pas de bêtises, je parle sous ton contrôle. Mais évidemment, évidemment, il vaut mieux s'y abonner en papier, ce qui est tout à fait possible, même pour des Français. Mais je te laisse pour la page publicitaire, peut-être compléter mon propos.
Oui, non, 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 je cherche des abonnés partout, aux quatre coins du monde, parce que vraiment, l'autre lutte dont on n'a pas parlé, et encore, ça concerne Trump. Trump s'est allié avec les GAFAM. Maintenant, les GAFAM sont soumis à Trump, Trump est soumis aux GAFAM. Et notre lutte de QG, de Harper, tout le monde de l'édition qui veut toujours faire quelque chose de bien, j'espère, c'est contre les GAFAM et la puissance totale sur le marché de Google et Facebook, etc. Et ça s'empire, ça s'empire. Alors, ma nouvelle publicité, c'est un acte patriotique de s'abonner sur le papier, parce que au moins Google ne peut pas piquer des clics de votre numéro papier. On fait la livraison par la poste, on attend tranquillement chez soi et
Et Google et ne peut
on
pas
arrive.
invisibiliser, ne peut
Oui.
pas invisibiliser vos contenus, ne peut pas vous censurer.
Exactement. Ou vous interrompre avec des publicités, etc. Alors, c'est un acte patriotique, oui, de s'abonner à Harper's.
Et de s'abonner à QG, de s'abonner aux médias vraiment indépendants et non alignés. Merci beaucoup, Rick. À
Oui, merci.
bientôt.
À bientôt, merci.
Je rappelle que QG est un média indépendant. Je vous invite bien sûr à nous découvrir sur QG.media et à nous soutenir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à très bientôt.